C'est terrible quand la vue baisse, hein, il nous faut des Bibles qui ont un plus grand caractère. Et alors, comme on a la mémoire visuelle des textes, là ou là, si ça flanche un peu la mémoire avec une nouvelle Bible, c'est plus difficile. Et puis, suivant où j'étais, je prenais la Bible catholique pour lire aux catholiques, pour qu'ils puissent suivre, puisque ça m'avait beaucoup frappé au temps de Paul VI, les gens venaient avec leur Bible dans l'église catholique. Et toutes les études que j'ai faites dans l'église catholique, ils avaient la Bible. Et de sorte que c'était pas mon enseignement qui leur était donné, mais l'enseignement biblique. Et c'est ce que les prêtres faisaient en disant, on demande racine parce qu'il apporte la Bible. Mais j'étais pas compris par les évangéliques. C'est abominable de faire ce que je faisais. Puis quand il y a eu les conversions, les évangéliques étaient là pour essayer de tirer les gens chez eux. C'est ça qui est terrible. Puis une fois qu'ils étaient chez eux, ben voilà le pasteur qui foutait le camp avec une autre femme. Alors, tout ce qu'on avait raconté des histoires de curés, c'était la même chose chez les protestants. C'est ça qui est terrible. Faut pas se juger, faut aimer. Et puis, si Dieu vous donne un appel, une conviction, vous y allez. On vous comprendra pas, vous souffrirez, mais c'est dans le programme. Alors, tout ce qui est dans le programme ne nous surprend pas. Alors, on l'accepte. Et quand même, David, c'est ce que nous allons voir, a accepté le jugement du Seigneur. Et il a pu parler ensuite à ses enfants. Malgré tout ce qu'il avait fait, il a quand même eu une autorité. Et nous voyons qu'au début, Salomon a vraiment suivi ce que David lui avait enseigné. Alors, Dieu notre Père, nous voulons te demander que ce matin encore, par ta parole, nous soyons enseignés et que nous ne recevions pas les conceptions d'un homme sur ta parole, mais que nous soyons convaincus par cette parole elle-même et que nous la gardions dans notre cœur et que par ton esprit qui devient notre mémoire, les textes dont nous avons besoin nous soit rappelé, et comme nous l'avons dit souvent en citant le psaume 119, que ce soit une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier, et que notre intelligence et notre cœur soient toujours en activité pour te plaire en Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes déjà au 12 juillet 2000 avec ce thème « Il y a ici plus que Salomon ». Hier soir, notre étude nous a montré comment David a enseigné son fils Salomon, le pacifique. Comment il l'enseignait après avoir été restauré de ses chutes? Comment a-t-il été restauré? Par la confession, disait le psaume 32. Tant qu'il s'est tué, il était malheureux. Et puis, il n'était pas dans l'esprit de Dieu et tout ce qu'il a fait en versant du sang, n'était pas commandé par le Seigneur. Mais, donc, avant ses chutes, il avait fait des psaumes, il aimait le Seigneur, et puis, c'est avant ses chutes qu'il avait pensé bâtir une maison pour l'Éternel. Et vous savez, on a beaucoup de projets quand on vient de se convertir. Et on juge tous les autres, on pense qu'ils n'ont rien fait. Les vieux, ils n'ont rien fait. Hein. Dans les communautés, c'est souvent comme ça. Mais nous, les jeunes, ben, vous allez voir ce que ça va donner. Parce qu'on ne se connaît pas encore. Mais on a été tellement impressionnés par ce que le Seigneur a fait pour nous, que on est plein de zèle. Mais attention au zèle, parce qu'il y a aussi un faux zèle. Et puis, on s'attribue souvent les conversions. Alors, une vraie conversion, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le Seigneur. Si c'est le prédicateur, au bout de peu de temps, alors qu'on a fait le recensement des conversions, et qu'on a voulu l'envoyer dans les églises les plus proches, tout ce système-là, hein, moi je peux pas l'admettre. Je le laisse faire, mais je ne le ferai pas pour moi. Parce que je sais que le Seigneur nous a montré que c'est son œuvre qui sauve. Et lui-même ne s'attribuait pas les conversions. Il disait dans sa prière à son Père que c'était des âmes que le Père lui avait données, n'est-ce pas? Ce sont les âmes que le Père lui a données. Alors, ces âmes qu'il a reçues, il les a sauvées par sa mort, puis il les redonne au Père. Alors, quand on appartient au Père, c'est pour toujours, on ne perd pas son salut, c'est clair. Mais il faut bien voir les choses comme elles sont. On me disait que quelque part, dans une église, peu importe, on veut faire une mission d'évangélisation et qu'on avait fixé à 25 les conversions. Il doit y en avoir 25. Alors on prie pour qu'il y ait 25 convertis dans cette mission. Alors, s'il y a les 25, ça sera de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Est-ce que vous trouvez ça dans la parole? Ce qui est de Dieu, c'est que le ciel se réjouit pour une âme qui se donne au Seigneur. Une âme. Pourquoi est-ce qu'on veut dire autrement? 25? Pourquoi pas 3000 alors? Parce qu'il y avait 3000 conversions une fois. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Mais on est à côté de la plaque, on est à côté de la Bible, puis on a nos idées, puis on pense que c'est bien. Mais c'est parce qu'on s'attribue toujours quelque chose. Puis alors après, comme il y a beaucoup de gens qui abandonnent, quelle est la doctrine qu'on a mise en avant et qui est dans beaucoup d'églises? La perte du salut. Vous trouvez des gens qui ne sont jamais sûrs de leur salut. C'est triste. Et c'est très drôle. Un enfant est venu me dire, c'est quand même triste, hein, l'Église de Dieu aujourd'hui. Ils sentent ces choses. Mais je crois que Dieu nous a donné quelques grâces dans ces journées. Et pour moi, en particulier, ce dimanche, le silence des enfants, pendant tout un culte, m'a vraiment impressionné. Et ce que j'avais toujours compris, et ce qui m'avait toujours impressionné, dans une église catholique, et je pense que vous pouvez le dire, quand vous y alliez avec vos parents, vous étiez silencieux. Vos parents n'avaient pas toutes les lumières, mais enfin ils vous ont quand même conduit en un certain lieu. Et puis là, vous restiez tranquille. Alors, il nous faut prendre ce qui est juste et puis prier pour que Dieu éclaire. Et vous savez, quand on pouvait leur dire, mais vous avez entendu souvent ceci, faites ceci en mémoire de moi, à la messe. Vous l'avez entendu souvent? C'est pas une vérité nouvelle, jusqu'à ce qu'il vienne. Vous l'avez dit aussi. Oui, mais un jour il va venir. Et oui, on n'y avait pas pensé. On a lu, mais on n'y a pas pensé. Alors, ce que je voudrais, c'est que nous lisions et que nous pensions que ces choses que nous avons lues sont des vérités. Et moi, ce qui m'impressionne avec la Bible, c'est que Dieu a toujours pris des hommes pour illustrer une vérité. Un exemple. Un homme avec ses sentiments. Alors vous voyez, David, avant sa conversion. On va voir ce qu'il pense, après sa conversion, avant ses chutes. Prenez Exode, chapitre 34. Il avait lu le Pentateuque et il savait bien que l'Éternel avait parlé à Moïse au moment où il devait lui donner la loi. Exode 34, verset 6. Moïse avait demandé de pouvoir voir le Seigneur. L'Éternel descendit dans la nuit. Il se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant. » Qu'est-ce qui avait dit qu'il était compatissant? Lui-même. Et dans le choix qu'a fait David au sujet des épreuves, il s'est souvenu de cela. Et il a pensé que Dieu était plus compatissant que les hommes. Et il a préféré les 3 jours dans les mains de Dieu que les autres propositions. L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant, qui fait grâce. Il est tombé plus tard, donc, mais il a su que c'était un Dieu qui faisait grâce. Lent à la colère, mais il a vécu cela. Riche en bienveillance, à un moment donné, il a repris Saül, le persécuteur. Et en fidélité, alors lui aussi, David va devenir un homme fidèle, quand il a compris, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute. Mais quand vous pensez à ce qu'il a fait, David, ça devait être dur de penser qu'il pouvait être pardonné. Mais Dieu l'avait dit à Moïse, et il l'a qui pardonne la faute. Le crime est le péché dans cette nouvelle version. Mais qui ne tient pas le coupable pour innocent? Alors ça aussi, il l'a compris. Et il a accepté une des propositions. Comprenez-vous? C'est la parole qui permet d'accepter les voies de Dieu. David est un homme qui est dans la main de Dieu. Et Dieu va accomplir sa volonté par cet homme qui punit la faute des pères sur les fils. Hélas, plusieurs de ses fils sont morts. L'aîné, qui a été tué par son frère, on a vu tout cela. Mais c'est pour vous montrer quelle vie il avait eu, ce David. Qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petit-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Moïse s'empressa de s'incliner en terre et de se prosterner. Il dit, Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide, tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour héritage. Et il savait cela. Mais maintenant, prenons les sentiments de David avant sa chute. Son projet avant sa chute, 2 Samuel. Chapitre 7. Son projet qu'il avait dans son cœur. Parce qu'on veut faire de grandes choses quand on vient de se convertir. Lorsque le roi habita dans sa maison. Donc Saül était mort, l'ennemi était loin, il avait été retranché et c'est lui qui régnait. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. » C'était le tabernacle. Hein. Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans ton cœur. On va pas décourager les jeunes convertis quand ils ont toutes sortes d'idées. Hein. Va et fais tout ce qui est dans ton cœur. Mais on prie pour eux, pour que le Seigneur leur montre que ils doivent compter sur lui. Car l'Éternel est avec toi. Quand un jeune converti, vraiment converti, l'Éternel est avec lui. Alors, il faut comprendre cet élan, cette jeunesse. Mais, vous voyez, verset 4. Or, cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces termes. Donc, le prophète qui avait reconnu que c'était bien ce sentiment qu'il voyait dans le cœur de David, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Donc, il faut tout de suite les enseigner. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec vous, les Israélites, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Est-ce que j'ai demandé ça? Il n'avait pas demandé. Alors, quand on veut faire quelque chose, est-ce que le Seigneur l'a demandé? Est-ce que le Seigneur l'a demandé? Si je ne peux pas dire non, il n'a pas demandé, je ne sais pas. Maintenant, tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau. Donc, il n'y a aucune prétention qui peut être mise en avant pour que tu sois le conducteur de mon peuple Israël. C'est moi qui t'ai pris. J'ai entendu une fois dans une famille pastorale, ils avaient plusieurs enfants, et pour savoir ce qu'ils devaient apprendre, ils tiraient au sort. Ils mettaient des choses sur du papier, puis une prière, puis on jetait le sort. Et alors, pasteur, tu seras pasteur. Docteur, on essaiera de te donner le doctorat. Des trucs comme ça. Est-ce que c'est cela nos méthodes? Non, nous prions et nous nous attendons au Seigneur qu'il nous révèle ce qu'il veut pour nos enfants. J'ai été avec toi. Où tu es allé, j'ai retranché tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël. je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus de l'humilier comme autrefois. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. C'est lui qui va agir. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, et celui qui sortira de tes entrailles, je l'affermirai dans son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance, littéralement ma bonté, ne se retirera pas de lui comme je l'ai retiré de Saül que j'ai écarté de devant moi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Alors Nathan parla à David conformément à toutes ses paroles et à toute cette vision. Il a appris lui-même que c'était pas tout à fait juste de dire simplement à David tout ce que tu fais est bien. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel. Vous voyez, l'action de la parole nous amène à la prière. Et d'abord, une prière d'humiliation. Qui suis-je, Seigneur Éternel? Et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici? C'est encore peu de choses à tes yeux. Vous voyez, il pouvait se rappeler des grâces de l'Éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour des temps lointains. Est-ce là la voix d'un être humain, Seigneur Éternel? Qui pourrait te dire, que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, toi, Seigneur Éternel, à cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les faire connaître à ton serviteur. Que tu es donc grand, Éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point de Dieu en dehors de toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Y a-t-il une nation sur la terre qui soit comme ton peuple d'Israël, et que des dieux soient allés libérer pour en faire leur peuple et pour lui donner un nom? Tu as fait pour lui de grandes choses, des choses redoutables en faveur de ton pays, en présence de ton peuple que tu as libéré de l'Égypte, de ses nations, de ses dieux, pour qu'ils t'appartiennent. Tu as affermi ton peuple d'Israël afin qu'il soit ton peuple pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister pour toujours la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison et agis selon ta parole. Que ton nom soit grand pour toujours et qu'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. Que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as fait une révélation à ton serviteur en disant, je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur Éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille maintenant bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste pour toujours devant toi. J'aimerais que vous soyez bien convaincus que c'était des choses qu'il a dit avant sa chute. Mais alors comment est-ce qu'un homme qui a pu dire des choses pareilles a pu tomber? C'est la preuve de quoi? Que la chair n'est pas améliorée par la conversion. La chair n'est pas améliorée par la conversion. Plus vous avancez dans la vie chrétienne, dans la communion avec le Seigneur, plus vous vous dites, comme tu as raison, Seigneur. Il n'y a rien devant nous, je suis perdu. Et je ne suis pas sauvé simplement pour aller en paix vers le Seigneur. Le Seigneur me sauve en me donnant la possibilité de mourir en lui. Il n'est pas seulement mort pour moi sur la croix, mais il m'a pris avec lui dans sa mort. Et c'est quand j'ai saisi cela que je suis mort en Christ que j'ai la victoire sur le péché. Un mort, on peut le tenter, il ne bouge plus. Et c'est ça, cette puissance. Tu l'as dit, Seigneur, je suis mort en toi. Et c'est ça le sens profond du baptême. C'est cela que nous devons comprendre. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Alors, voilà donc ce que David avait compris et vivait déjà avant sa chute. Puis, malgré tout cela, eh bien, nous avons vu ce qui lui est arrivé. Sa conduite criminelle à l'égard de Bathsheba, une femme mariée, et alors, voyez ce qui se passe aujourd'hui, et la mort d'Uri. Comment est-ce que David, qui avait cette connaissance, qui avait déjà écrit des psaumes, comment a-t-il pu faire ça? Bien, Dieu nous a donné cet exemple de David, justement. Un homme de Dieu, un homme choisi par lui, mais il nous montre que nous ne sommes pas, tant que nous sommes dans la chair, le péché est là. Et la lutte pour le péché, c'est la mort. Et nous devons comprendre ça. Le baptême, c'est le signe de notre mort. Or, je sais très bien, on aime photographier nos enfants quand ils sont baptisés. Mais au fond, c'est pas un spectacle. C'est pas un spectacle. J'ai baptisé dans le Jourdain plusieurs personnes quand j'allais en Israël. Et alors, il y avait au-dessus du Jourdain une colline, puis il y avait des grands cars américains qui étaient là avec ça pour photographier ça. Mais je n'en dis, j'avais 7 juifs qui se convertissent, qui étaient convertis. On ne veut pas être baptisé, vous ne voulez plus être baptisé quand ils ont vu qu'on voulait les photographier de cette manière-là. C'était pas un spectacle. Et après, c'est un cardinal qui m'a dit ça à Bruxelles. Quand je lui ai dit comment le Seigneur me conduisait au sujet, non pas d'un rebaptême, mais de l'actualisation du seul baptême biblique, puisqu'il n'y a qu'un seul baptême. Puis j'admettais les formules que le Seigneur m'avait données. Mais il m'a dit, mais ce qui est dramatique, il y a 3000 personnes catholiques qui se sont fait rebaptiser. Puis ils ont fait un grand spectacle. Puis tout ça est allé à Rome. Et alors, évidemment, ça a fait beaucoup de bruit et un ordre a été donné. Plus question de baptême. Ils ont été baptisés, disait-on. Mais donc, on ne pouvait plus enseigner directement les vérités. Mais c'est ça. Alors, faisons attention. Que le monde fasse tout cela, eh bien, c'est son affaire. Mais nous, nous voulons suivre la parole et donner un sens profond à ce qui nous est demandé. Alors, vous avez lu certainement le psaume 1931, la confession de David. Vous avez lu le psaume 32 qui nous montre combien il était malheureux tant qu'il n'avait pas avoué son péché. Et peut-être que je devrais vous indiquer encore un texte que vous pouvez lire à la mort de Saül. On en a parlé hier. David a écrit toute une complainte qui montre qu'il ne s'est pas réjoui de la mort de Saül. Mais il a été tellement quand même heureux d'être délivré qu'il a écrit le psaume 18, que vous trouvez trois fois dans l'écriture. C'est le psaume qu'il a adressé à l'Éternel quand il l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Vous avez cela dans 2 Samuel, chapitre 22. Qui est intitulé « Cantique de David, délivré de ses ennemis », verset 1er du deuxième livre de Samuel, chapitre 22, c'est aussi le psaume 18. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. « Quand l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, alors il a écrit ce merveilleux psaume. Il dit, L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, le Dieu qui est mon rocher, en qui je me réfugie. Quand il est dit qu'il est mon rocher, ça vous fait penser à quoi? Pourquoi est-ce qu'il parle tout le temps du rocher? Ça fait penser à Christ, bien sûr, un plus grand que Salomon. Mais c'est parce que c'était de l'eau du rocher que ça sortait pendant le temps du désert. Ils ont été abreuvés par l'eau du rocher. Et c'est ça qui les maintenait en vie. Alors il parle toujours de rocher. Alors maintenant, on a vu l'intention que David avait avant la chute, avant sa chute, de bâtir une maison. Il est tombé, mais le Seigneur lui a pardonné, et alors il va s'occuper de son fils. Prenez 2 Samuel, chapitre 23. Je vous ai dit qu'on a essayé de voir qui étaient les parents de David, de Salomon, David. Et Bathsheba. De Samuel 23, vous l'avez? Alors nous lisons. Voici les dernières paroles de David. Nous avons vu hier qu'un jour il faut mourir. Il n'y a pas d'espérance pour nous de demeurer toujours ici-bas. On a dit ça dans les chroniques. Alors, nous retrouverons dans ces versets du chapitre 23 du deuxième livre de Samuel des paroles que nous avons déjà considérées dans les chroniques aussi, dans l'enseignement que David a reçu. Voici les dernières paroles de David. Oracle de David, fils d'Isaïe. Oracle de l'homme haut placé, du Messie, du Dieu de Jacob, du chantre ou du psalmiste agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel a parlé par moi, et sa parole a été sur ma langue. Donc, tout ce que nous avons lu, ça veut dire que c'était inspiré de Dieu. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui domine sur les humains est juste. Celui qui domine dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil se lève par un matin sans nuages. Par son éclat et par la pluie, la verdure sort de la terre. N'en est-il pas ainsi de ma maison avec Dieu? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point réglée et gardée, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tout ce qui est agréable? Mais les vauriens sont tous comme le chardon que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. L'homme qui les touche s'arme d'un fer et du bois d'une lance. C'est par le feu qu'ils seront brûlés sur place. Donc, on a vu l'enseignement que, hier, que David a pu donner devant les fils d'Israël au sujet de son fils Salomon. Et on revient maintenant sur ce qui est appelé ici les dernières paroles de David. Il est appelé David le fils d'Isaïe. C'est son humble condition qui est soulignée. Il était le fils d'Isaïe. Et comment l'appelait-on dans sa maison? Le petit. Oracle de David, fils d'Isaïe. On se souvient de son humble condition. Son père ne savait pas du tout que Dieu l'avait choisi. Alors, souvenez-vous de cela, père. Vos enfants sont choisis. Le deuxième nom qui lui est donné, oracle de l'homme haut placé. Ce fils d'Isaïe a été haut placé vis-à-vis de ses frères, ce qui forcément allait apporter la jalousie chez ses frères. Mais qui est-ce qu'il avait haut placé? C'est Dieu. Alors c'est ça qui compte pour nous. On a affaire avec Dieu. Et nous apprenons ici que David, qui nous a occupés, a eu affaire avec Dieu. Du Messie, ou de loin du Dieu de Jacob. Est-ce qu'il a été loin, David? Oui. Il a même été loin deux fois. Du chantre agréable d'Israël. Alors ça vous montre que vous pouvez lire quoi? Les psaumes. Tous les psaumes. C'est le titre qui lui est donné, le psalmiste, le doux psalmiste d'Israël. Les psaumes sont inspirés. L'Esprit de l'Éternel a parlé par moi. Donc, quand vous lisez les psaumes, allez plus loin que David, c'est l'Esprit de l'Éternel. Sa parole est sur ma langue. Je me souviens, quand j'avais 14 ans, justement, ces textes du psaume 119 m'avaient vraiment impressionné. Dans tous les versets, il est parlé de la parole, des commandements, des jugements de Dieu. Et ça nous marque et ça nous reste. Ta parole est la vérité. Et il n'est jamais dit, ta parole m'a tué. Ta parole m'a fait vivre. Et on aime cette parole. Et on a envie, elle s'éclaire, elle se réalise dans notre vie. Le Dieu d'Israël a parlé. Et on sait qu'il parle. Et voyez-vous, ça change complètement notre vie de prière. Parce qu'on va à Dieu avec sa parole, on a lu quelque chose, puis on lui rappelle, là tu l'as dit Seigneur, ça nous touche. Le rocher d'Israël m'a dit. Est-ce qu'un rocher parle? Mais c'est de quel rocher qu'il est question? Qu'est-ce que c'était le rocher pour Israël? C'était la source d'eau. Mais c'était un miracle. Dieu l'avait nourri par un rocher, l'eau du rocher. Et le pauvre Moïse, qui pourtant était l'homme de Dieu, que Dieu avait choisi, avec Aaron, pour conduire ce peuple, il n'a pas fait exactement, là, devant le peuple d'Israël, ce qui avait été dit. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'a pas pu entrer vivant dans ce pays où il avait conduit le peuple. Ce qui vous donne ce sentiment de la crainte de l'Éternel, c'est dans tous les domaines de la vie que nous devons laisser le Seigneur nous instruire. Évidemment, alors, on ne ressemblera pas tellement au monde. Mais on a tellement les yeux sur le monde qu'on veut faire comme lui. Et nous nous trompons complètement. Et nous nous occasionnons bien des misères. Pauvre Moïse. Prenez, on va relire le texte du chapitre 20 des Nombres. Toute la communauté des Israélites arriva dans le désert de Tsin. Le premier mois, et le peuple demeura à Kadesh. C'est là que mourut Myriam, Marie, et c'est là qu'elle fut ensevelie. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté. Et l'on s'assembla contre Moïse et Aaron. Pourquoi contre Moïse et Aaron? Parce que c'était les conducteurs. Hein. Et le peuple contesta avec Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré? Quand nos frères expirèrent devant l'Éternel, ils ont regretté la mort. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pendant 40 ans, ils avaient vécu, puis ils oublient les 40 années où ils ont vu miracle sur miracle. Puis maintenant, il y a une nouvelle épreuve, et dans cette nouvelle épreuve, on murmure, puis on regrette même de n'être pas mort comme les autres. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Vous voyez jusqu'où ils vont? Ils vont jusqu'à retourner en pensée en Égypte pour nous amener dans cet endroit mauvais Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni figue, ni grenadier. Il n'y a point d'eau à boire. Et c'était vrai. Il n'y avait point d'eau à boire, oui. Mais dans le chapitre 8 du Deutéronome, c'est un pays de figuiers. Et puis, il y aura de l'eau aussi. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent la face contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends ton bâton, assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher. Elle donnera ses eaux. » Qu'est-ce qui donnera les eaux? C'est pas Moïse ni Aaron, c'est le rocher. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras la communauté et le bétail. Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il a pris le bâton. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Il s'attribue à eux l'eau qui va sortir. Comme si c'est eux qui vont faire quelque chose. Le Seigneur, lui, j'ai dit au sujet des conversions, il les attribuait à son Père. Le Père vous a donné à moi, et moi je vous ai sauvé. Puis, Moïse leva la main, et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il s'est énervé. Est-ce qu'il devait frapper deux fois? Non. Je vais croire. Il sortit de l'eau avec abondance. C'est pas que... Il sortit de l'eau avec en abondance. Vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Et pourtant, il l'avait tellement désiré. Et il en avait fait un sujet de prière, je vous l'ai déjà dit, dans le Deutéronome, Dieu lui dit à Moïse, de ne plus lui parler de cette affaire. Chapitre 3 du Deutéronome, en ce temps-là j'ai supplié l'Éternel disant, « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur la grandeur de ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Je voudrais passer, je t'en prie, et voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes du Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi. À cause de vous, il ne m'écouta pas, et il me dit, « C'est assez. » Ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'ouest, au nord, au sud et à l'est, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas le jour. Alors il a dû accepter. Puis au chapitre 4, au verset 21, l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Il jura que je ne passerai pas le Jourdain, et que je n'entrerai pas dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Mais vous savez comment il est mort. Moïse a 120 ans, après une course de montagne. Il est convoqué pour aller mourir sur la montagne. Avec Dieu. Et pour moi, Moïse est mort dans un baiser de Dieu. C'est tellement beau. C'est lui qui l'enterra. Directeur des pompes funèbres. Vous pouvez voir à travers tout que la Bible, un enseignement qui est clair. Alors, vous allez lire de plus en plus la parole, et en particulier les psaumes, et vous arriverez à la mort maintenant de Moïse. On a dit quelques mots de ses dernières paroles dans 2 Samuel 23. Alors, prenez maintenant, avec ces dernières paroles, dans un roi, chapitre 2, un roi, chapitre 2. C'est les instructions de David mourant. David approché de sa fin. Et il donna ses ordres à son fils, Salomon. On peut dire déjà depuis le chapitre précédent, Salomon est choisi donc par David pour lui succéder sur le trône. Parce que et nous arrivons au premier chapitre, vieillesse de du roi David. Le roi David était vieux, avancé en âge, et on le couvrait de vêtements, il ne pouvait se réchauffer. Alors on lui a donné une jeune femme, la Sunamite, que l'on fit venir auprès du roi. Cette jeune fille était vraiment très belle. Elle soigna le roi et se mit à son service, mais le roi ne la connut pas comme femme. Et alors, à ce moment-là, quand on apprend que le roi est à fin de vie, un de ses fils, Adonija, le fils d'Agit, a élevé des prétentions en disant « c'est moi qui serai roi ». Il se procura un char, des cavaliers, vous avez lu tout cela. Jamais sa vie durant, son père ne lui avait fait un reproche. C'est une des faiblesses de David. On lui avait dit, pourquoi agis-tu ainsi? Adonija était en outre fort beau à voir, et il était né après Absalom. Alors il a eu un entretien avec Joab, qui était le général de David, et ensemble, ils ont fomenté un attentat, et puis Adonija a voulu prendre la place du roi. Mais le sacrificateur Tzadok, verset 8, Benaïa, fils de Jéhoïada, le prophète, et les hommes vaillants de David ne furent pas avec Adonija. Adonija sacrifia du petit et du gros bétail, il invita tous ses frères, les fils du roi, tous les hommes de Juda, serviteurs du roi, verset 10, mais il n'invita pas le prophète Nathan, ni Benaïou, ni les vaillants hommes, ni son frère Salomon. Donc, on va essayer de mettre Adonija comme roi à la place de Salomon. Ça, c'est les pensées des hommes, des Israélites. Est-ce que Dieu va permettre ça? Non. Mais il laisse faire. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonija, fils d'Agit, est devenu roi? Et que notre Seigneur David ne le sait pas. Donc on a voulu, dans l'ignorance où était David à cause de sa vieillesse, intervenir pour mettre quelqu'un d'autre que Salomon. Viens donc maintenant, je vais te donner un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Parce que, qu'est-ce qui serait arrivé? On aurait tué le fils et la mère. Salomon et Bathsheba. Viens donc maintenant, je vais te donner un conseil. Alors, va entre chez le roi, et tu lui diras, ô roi mon seigneur, n'as-tu pas fait un serment à ta servante en disant, ton fils Salomon régnera après moi? Donc, il avait dit à sa femme que c'est Salomon qui régnerait. Pourquoi donc Adonijah régnerait-il? Voici, pendant que tu parleras avec le roi, j'entrerai moi-même, donc le prophète, après toi et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Or, le roi était très vieux. Mais j'ai dit qu'il était, il avait quel âge? 70 ans. Hein. C'est pas très vieux. 70 ans. On m'a demandé où j'avais trouvé ça. Ben, vous pouvez faire le calcul. Relisez les paroles, puis vous additionnez. Quand il est né, quand il a... Tout ça, c'est marqué dans la Bible. Mais si vous prenez seulement un texte, vous comprendrez jamais. Il faut lire la Bible de la première page à la dernière, puis pas seulement une fois, mais deux fois, trois fois, quatre fois. Puis tout à coup, on comprend ces choses. Pourquoi David, à 70 ans, était si vieux? Il avait eu une vie épouvantable. Poursuivi pendant 40 ans, 30 ans en tout cas, par le roi, devant se sauver d'une place à l'autre. Alors Bathsheba s'incline, verset 16, se prosterne devant le roi, et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répond, mon seigneur, tu as fait ce serment à ta servante, par l'Éternel ton Dieu, en disant, de ton fils Salomon, il règnera après moi, et c'est lui qui s'asseyera sur mon trône. Or voici maintenant qu'Adonijah règne. Et maintenant, tu ne le sais pas, ô roi mon seigneur. Il a sacrifié des bœufs, des veaux gras, etc. Et puis, il n'a pas invité ni moi, ni Salomon. Et toi, le roi mon seigneur, tout Israël, a les yeux sur toi, pour que tu déclares qui siégera sur le trône du roi mon seigneur après lui. Lorsque le roi mon seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici qu'arriva Nathan, on annonça au roi en disant, voici le prophète Nathan, il arriva en présence du roi, se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Ensuite Nathan dit, ô roi mon seigneur, c'est donc toi qui as dit Adonijah régnera après moi? Et c'est lui qui régnera sur mon trône? Car il est descendu aujourd'hui, il a sacrifié des bœufs, etc. Il avait fait toute une fête, verset 20. Mais il n'a invité ni moi, ni ton serviteur, ni Tzadok, ni Benaliou, ton serviteur, ni Salomon. Verset 27. Est-ce bien de par mon seigneur le roi que cette affaire a eu lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui siégera sur le trône du roi, mon seigneur, après lui? Et le roi David dit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra devant le roi, se présenta devant le roi. Alors le roi fit un serment et dit, l'Éternel est vivant, lui qui m'a délivré de toute détresse, ainsi que je t'ai fait le serment par l'Éternel. Donc il reconnaît que c'est vrai qu'il avait fait le serment. Le Dieu d'Israël en disant, ton fils Salomon régnera après moi. C'est ce qu'il avait dit à sa femme. Il siégera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. Alors Bathsheba inclina le visage contre terre, se prosterna devant le roi et dit, vive à jamais mon seigneur, le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Tzadok, le prophète Nathan, Benaïou, et ils entrèrent en présence du roi. Le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de mon seigneur, faites monter mon fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Guyon. Je me suis arrêté plusieurs fois à Guyon. Quand vous allez là-bas, vous pensez à ces récits, hein, je vous dis, Saïsic Salomon était couronné roi. Là, le sacrificateur Tsadok et le prophète Nathan te donneront l'onction comme roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette, du cor, et vous direz « Vive le roi Salomon !» Vous monterez derrière lui, il viendra siéger sur mon trône, et c'est lui qui règnera à ma place. Je l'ai établi conducteur d'Israël et de Juda. Voyez comme tout s'accomplit. Benaïa, fils de Jéhoïada, répondit au roi « Amen !» Donc ils étaient d'accord. « Qu'ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Comme l'Éternel a été avec mon Seigneur le roi, qu'il soit avec Salomon et qu'il élève son trône, plus que le trône de mon Seigneur le roi David. » Alors, le sacrificateur Tsadok descendit avec le prophète Nathan, Benaïa, les Pélétiens, ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et le menèrent à Guillon. Le sacrificateur prit la corne d'huile et donna l'onction à Salomon. On sonna du cor et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta derrière lui, le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Alors, verset 41. Adonijah, le frère là, qui a voulu prendre la royauté, entendit cela, ainsi que tous les invités qui étaient avec lui. Au moment où il finissait de manger, Joab, entendant le son du cor, dit « Pourquoi ce bruit donc ? La ville est en tumulte. » Il parlait encore quand Jonathan, le fils du sacrificateur Abiathar, arriva. Adonijah, viens, car tu es un homme de valeur et tu apportes de bonnes nouvelles. » Qu'Adonijah a dit. Jonathan répondit en ces termes à Adonijah. C'est-à-dire que notre Seigneur, le roi David, a établi Salomon comme roi. Le roi a renvoyé avec lui le sacrificateur Tsadok, le prophète Nathan, etc. Et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Tsadok, le prophète Nathan, lui ont confié l'onction royale à Guillon. De là, ils sont remontés, tout joyeux, et le tumulte s'est répandu dans la ville. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon est même assis sur le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur, le roi David, en disant que son Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom et qu'il élève son trône plus que ton trône. Et le roi s'est prosterné sur sa couche. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a placé quelqu'un sur mon trône, et mes yeux ont pu le voir. Les invités d'Adonijah se mirent à trembler, ils se levèrent et s'en allèrent chacun de leur côté. Adonijah, dans sa crainte à l'égard de Salomon, se leva pour aller saisir les cornes de l'autel. Et quand on saisissait les cornes de l'autel, on ne pouvait pas nous tuer, là, ça veut dire qu'on demandait grâce. On fit ce rapport à Salomon. Voici qu'Adonijah, par crainte du roi Salomon, a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne me fera pas mourir par l'épée. Salomon dit, s'il se montre un homme de valeur, il ne tombera pas en terre un seul de ses cheveux. Mais si du mal se trouve en lui, il mourra. Souvenez-vous bien de ça. Le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon et le Salomon lui dit « Va dans ta maison ». Il ne l'a pas tué à ce moment-là. Et alors, vous avez maintenant tout à fait la fin. David approchait de sa fin. Et il donna ses ordres. Parce qu'on a vu les dernières paroles de David, puis maintenant, les derniers moments. Et il donna des ordres à son fils Salomon. Salomon est déjà couronné roi, il est sur le trône, et David a encore des mots à lui dire. Et vous saurez si Salomon a suivi ses conseils. Moi, dit Salomon, alors c'est les paroles d'un mourant. Moi, je m'en vais. Où va tout ce qui est terrestre? Ou le chemin de toute la terre? Et qu'est-ce qu'il lui dit comme parole? Sois fort. Qu'est-ce que tu as commis?
Fortifie-toi,
oui. Là, j'ai sois fort et sois un homme, n'est-ce pas? Il avait environ 20 ans. Sois fort et sois un homme. Observe l'ordre de l'Éternel. Voilà les toutes dernières paroles de David à Salomon, son fils, dans son dernier enseignement. Observe l'ordre de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances, relisez le psaume 119, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu aies du succès, vous voulez avoir du succès, dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée sur moi. Et quelle était cette parole? Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant dans la vérité devant moi, d'une façon tiède, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Je sais bien ce qu'a fait Joab. Tu sais bien ce qu'a fait Joab. Et ça, je le lis pour vous montrer que, à un moment donné, même des péchés qui n'ont pas été condamnés, semble-t-il, eh bien, vous allez voir ce qui s'est passé avec Roboam. Voilà, avec Salomon. Je sais bien, tu sais bien ce qu'a fait Joab, fils de Tseruya, ce qu'il a fait à deux chefs des armées d'Israël, à Abner, fils de Ner, il l'a tué, et à Amasa, fils de Yeter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Vous vous souvenez comment Joab a tué Amasa. Il a dit, viens mon frère, il lui donne la main, il la tire sur lui. Lui n'a pas vu qu'il avait son épée, et il l'a transpercée. En temps de paix, il l'a tué. En lui donnant un baiser. Il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait sur ses reins et sur sa sandale qu'il a à ses pieds. Alors, il lui dit pas, le père, ce qu'il doit faire, mais il lui dit, tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas tes cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Mais il ne lui dit pas comment faire. Tu t'arrêteras avec bienveillance, les fils de Barzilaï le Galadite, ils seront de ceux qui mangent à ma table, car c'est ainsi qu'ils sont venus devant moi, c'était dans le lieu qu'on appelle Mahanaïm, lorsque je fuyais devant ton frère Absalom. Puis verset 8, voici près de toi Shimei, le fils de Guéra, Benjamite, et vous avez toute l'histoire de cet homme qui, lorsque Saül s'enfuyait poursuivi par son fils, l'insultait. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui fis le serment par l'Éternel en disant, je ne te ferai pas mourir par l'épée. Mais maintenant, ne le laisse pas impuni. Et je voudrais bien qu'on comprenne ça. On ne reste pas impuni. Quand on fait quelque chose. Il semble que, ben, il m'a rien fait, Dieu. Ça viendra. Ça viendra tôt ou tard, et ça viendra au moment où vous n'y penserez pas. Maintenant, ne les laisse pas impunis, car tu es un homme sage. Il dit ça à son fils. Il lui fait confiance. Tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras que ses cheveux blancs descendent en sanglanté dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la cité de David. Le temps que David régna sur Israël fut 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. À Jérusalem, il régna 33 ans. Et alors, on va commencer le règne de Salomon. Mais maintenant, vous avez bien dans la mémoire maintenant ce qu'a été la naissance de Salomon. Qui était son père? Qui était sa mère? Comment David, après sa chute, mais par la lecture de l'Ancien Testament, a retrouvé le pardon en se souvenant que l'Éternel avait dit à Moïse qu'il était un Dieu qui pardonne. Mais en même temps qui punit. Alors il a accepté le pardon de Dieu, mais il a accepté aussi la punition. Il a perdu plusieurs fils. Mais il a fait confiance au Seigneur. Pour Salomon. Et alors, maintenant, nous allons pouvoir entrer vraiment et comprendre beaucoup mieux le règne de Salomon. Dieu notre Père, nous te bénissons parce que tu nous as permis simplement, non pas de donner nos idées sur ces textes, mais de les recevoir. Pour qu'il soit vivant en nous, parole de Dieu, et que nous devenions aussi à ton image et à ta ressemblance. Et en pensant au baptême de ce soir, nous te prions de nous guider en toutes choses et de permettre que nous puissions encore mieux comprendre. Qu'être sauvé, c'est accepter de mourir en toi pour vivre de ta vie de ressuscité. Qu'il en soit ainsi en Jésus-Christ. Amen. Dans toutes tes voies. Il n'y a pas un chemin où nous ne soyons avec le Seigneur. On n'a pas un Christ extérieur à nous qu'on prend à certains moments, puis qu'on laisse, puis qu'on reprendra plus tard. On a un Christ en nous. Et la vie chrétienne, c'est ce que Paul disait, Christ est ma vie. Quand on lit les journaux, on nous dit de tel homme qui vient de mourir, sa vie a été telle chose. Mais on lit guère que Christ a été sa vie. Nous allons voir maintenant que Salomon est sur le trône, ce qui va lui arriver. Son père est mort, On ne peut pas garder toujours son père avec soi. Un père qui l'a enseigné, qui a montré à tout le peuple comment le peuple devait être avec son jeune fils. Alors, Dieu va personnellement se révéler plus profondément à Salomon. Et la grande parole qu'il va lui dire quand il lui apparaît dans une nuit, « Que veux-tu que je te donne ?» Mais qu'est-ce qu'il va demander ? Ce que son père lui a dit. Il faut qu'il ait l'intelligence et la sagesse. C'est ça qui compte. Donc l'enseignement du père a passé dans le fils. C'est ça que je trouve merveilleux. Et on a plusieurs exemples quand on pense à Jacob. Il travaillait tellement. D'abord, il a travaillé 7 ans pour avoir une femme. C'est pas les mêmes principes que Saül, qui voulait 100 prépuces de Philistins, puis qui en a reçu 200. Mais il a travaillé, travaillé. Ce cher Jacob. Mais quand il a eu perdu Rachel, il a dû s'occuper de qui? De Joseph. Et alors il s'est occupé de Joseph. Beaucoup plus qu'il s'était occupé de Ruben. Ruben était le premier, etc. Vous voyez, tout ça nous est donné. Alors on sait ce que Ruben a fait. On sait ce que Siméon et Lévi ont fait. C'était des violents. Le père n'était pas là. Il était avec ses troupeaux. C'était son travail d'abord. Mais avec Joseph, il était là. Et quand même, ce Joseph qui obéissait à son père et qui était choqué par les paroles de ses frères, il les rapportait à son père. Il était... Alors on dira que Joseph était un rapporteur, non, mais il en souffrait. Et quand il a été élu chef dans la maison du Pharaon, et que la femme de son maître a jeté les yeux sur lui, qu'elle l'a trouvé beau, désirable, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Comment pécherais-je et ferais-je un si grand mal contre qui? Contre Dieu. Contre Dieu, il avait compris. Le péché, c'est un grand mal contre Dieu. Comment pécherais-je et ferais-je un si grand mal contre Dieu? Mais il a eu l'éducation quand même de son père, qui lui a raconté bien des choses. Et il sait que prendre la femme d'un autre, c'est un grand mal qu'on fait contre Dieu. Joseph avait été instruit. Salomon aussi. Parce qu'il est évident que les enfants ont su ce que le père avait fait. Il était pardonné. Ne faites pas comme moi. C'est pas une rigolade, la vie chrétienne. Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Hein. On la trouve dans le monde. puis l'orgueil de la vie. Les trois péchés. Salomon les a connus par la propre vie de son père. Alors, je pense que nous sommes bien prêts pour entrer vraiment dans cette vie de Salomon. On a encore 4 réunions, hein, sur ça. Ce soir, jeudi matin, jeudi soir et vendredi matin. Ça nous permettra. Et souvenez-vous qu'il y a au fond 2 récits au sujet de Salomon qui ne sont pas contradictoires, mais que dans les chroniques, il n'est pas parlé de ses chutes. C'est uniquement la grâce de Dieu. Et ça va plus loin que Salomon, parce que là, Salomon, qui a régné sur tout Israël, le Seigneur n'a pas encore régné, hein, mais il doit régner. Et qui est le descendant auquel Dieu manifestera sa fidélité? C'est Jésus. Et Jésus n'a pas régné sur le monde. Et il doit régner à son retour et apporter la justice. Et la paix, plus encore que Salomon n'avait pu le faire.